Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdivois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Amandine Mollard, bonjour.
Bonjour.
Et de Josepha Poré, bonjour.
Bonjour.
Toutes deux, vous êtes ici pour nous parler et présenter de Ronalpia, une association de 1901, née en 2013. Et donc, vous êtes ici pour soutenir le développement territorial et surtout par rapport à quel domaine ?
Tout à fait. Alors Ronalpia, c'est une association GOA 1901 qui a été créée en 2013 à Lyon et qui soutient les entrepreneurs sociaux. Donc c'est des entrepreneurs qui agissent pour une finalité sociale ou environnementale et qui essayent de répondre à des besoins du territoire à travers le levier entrepreneurial. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs qu'on accompagne, ils agissent sur différents champs, autant sur l'accompagnement au vieillissement de la population, sur le secteur de la santé, sur le secteur de la justice, autour des problématiques environnementales aussi. Donc aujourd'hui, on a une communauté de 265 entreprises sociales qui agissent sur beaucoup de secteurs différents.
Si j'ai bien compris, c'est d'où le nom Ronalpia. C'est un territoire qui est celui de la région sur lequel vous vous occupez ?
Tout à fait. Depuis 2016, on a développé notre première antenne à la suite de notre antenne initiale de Lyon à Grenoble puis à Saint-Etienne. Et ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on développe nos actions en dehors des grandes métropoles de la région. Donc dans l'Ain, dans la Loire, dans l'Isère, dans la Drôme et quelques actions en Ardèche aussi. Et aujourd'hui, on vient plus particulièrement vous parler de l'antenne drômoise.
Antenne drômoise qui sera basée où à ce moment-là ?
Aujourd'hui, on a différents bureaux. On a un objectif d'avoir un ancrage assez fort localement, donc avec des bureaux à Valence, en partenariat avec la FAPTI, et puis sur la Biovallée, notamment à Eure, chez l'association Biovallée.
Vous parlez de porteurs de projets, de territoires, et pour ça, vous voulez dénommer les intrépides. Mmh. Alors, quelle définition vous donnez-vous aux intrépides ?
Alors pour nous, les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est effectivement des intrépides parce qu'ils sont ambitieux, parce qu'ils sont courageux, parce qu'ils identifient des problématiques sociales et environnementales. Ils y mettent toute leur énergie, on va dire, dans ce projet, parce qu'ils sont agiles, parce qu'ils arrivent à mobiliser différents acteurs sur leur territoire pour répondre à ces besoins sociaux et environnementaux du territoire. Donc voilà, on aime bien les appeler les intrépides parce que c'est des personnes qui sont très investies dans leur projet et qui n'ont pas froid aux yeux, comme on dit.
Ronalpia, c'est un mouvement qui est né dans les métropoles, hein, comme vous le dites. Et là, vous avez une tendance à vous établir aussi sur les territoires ruraux. Est-ce que le travail est plus ardu pour ce type d'accompagnement et de structure ?
Le travail est différent, on va dire. Il y a un enjeu de coopération et de collaboration à l'échelle très locale dans des territoires ruraux qui sont très importants pour le bon développement des entrepreneurs qu'on accompagne aujourd'hui. Et puis souvent avec un marché plus faible et puis potentiellement des subventions publiques aussi moins importantes, on va dire, pour les porteurs de projets qu'on accompagne. Donc oui, ça peut être plus dur. Et en même temps, il y a des besoins aussi qui sont très forts. Donc on a besoin de ces entrepreneurs aussi dans les territoires ruraux.
Amandine Mollard, vous êtes nouvellement recrutée au sein de Ronalpia. Déjà, quelle fonction vous aurez ?
Oui. Alors moi, je vais m'occuper de l'antenne drômoise, donc je vais être responsable de cette antenne qu'on va mener en collaboration très étroite avec la FAPTI pour avoir vraiment un ancrage à Valence et un peu dans la Biovallée, comme l'a dit Josepha, pour être sur place et accompagner les entrepreneurs au quotidien ici.
Ronalpia, en allant sur votre site, on peut remarquer tout de suite la jeunesse de l'équipe. Vous avez l'air d'avoir une trentaine d'années maximum en moyenne. Vous êtes issus tous d'établissements de quel ordre dans votre formation ?
Alors oui, on est une équipe jeune, la moyenne d'âge est de 31 ans et moi j'en ai 26 par exemple. Et on sort soit d'université en lien avec l'entrepreneuriat ou l'économie sociale et solidaire. Voilà, dans les grandes lignes, avec quelques personnes qui ont rejoint l'équipe aussi, qui sont en reconversion. Et Amandine était entrepreneur avant de rejoindre l'équipe, donc on a aussi des beaux profils d'entrepreneurs dans l'équipe de Ronalpia.
C'est ça, moi j'ai été entrepreneur pendant un peu plus de 4 ans dans différents domaines de l'économie sociale et solidaire. Donc j'ai croisé beaucoup de porteurs de projets et je suis ravie aujourd'hui de passer de l'autre côté de la ligne pour pouvoir accompagner ces personnes qui étaient mes pairs et qui ont envie d'agir au cœur de leur territoire pour faire bouger les choses au quotidien.
Dans le manifeste de Ronalpia, vous mettez en avant aussi les territoires qui se fragilisent, des difficultés d'accès aux services essentiels, les services, vous pourrez nous indiquer lesquels, et puis des territoires justement laissés pour compte, comme des territoires ruraux. Qu'est-ce qui vous a mis en évidence ce constat, localement par exemple, sur le territoire de la Drôme?
Alors la particularité du territoire drômois, c'est qu'il est très dynamique en termes d'initiatives, d'associations et de porteurs de projets. C'est un des territoires où on a eu plus de candidats. Là, sur les deux dernières années de notre première expérimentation, on avait 30 dossiers de candidature. Donc on sent qu'il y a une belle énergie aussi localement et voilà, que les habitants ont envie de répondre aux enjeux de leur territoire. Donc voilà, aujourd'hui, on est ce qui nous a mis la puce à l'oreille, on va dire, c'est il y a eu pas mal d'événements dernièrement entre la crise des gilets jaunes, entre la crise sanitaire et économique qu'on traverse aujourd'hui, qui renforce les fragilités, mais qu'elles soient à l'échelle métropolitaine et dans les territoires ruraux. Et c'était plutôt de se dire, ne laissons pas non plus de côté les entrepreneurs qui sont sur ces territoires, ne leur demandons pas d'aller à Lyon, à Grenoble ou à Saint-Etienne pour se faire accompagner, et plutôt allons à leur rencontre pour ne pas les déraciner de leur lieu d'impact. Donc c'était plutôt dans cette vision globale de se dire les territoires de manière générale sont fragiles, ils ont besoin d'entrepreneurs, mais aussi dans les territoires ruraux, donc à nous d'aller à leur rencontre et de développer nos actions sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est par l'expérience aussi que l'implantation s'élargit sur la région. Quelles sont les expériences concrètes qui vous ont permis justement de vous développer dans votre expérience de Ronalpia?
Aujourd'hui, différents éléments qui nous ont permis de nous développer. Déjà, un constat assez fort des entrepreneurs qu'on rencontrait sur l'ensemble de la région. Au moment des appels à projets régionaux de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, en 2017, on avait 25% des dossiers de candidature qui venaient d'en dehors des grandes métropoles. Donc c'était un signal assez fort des entrepreneurs des territoires. Et puis, en parallèle, un soutien de la région qui lançait un appel à projet et qui nous a permis de tester ce déploiement et d'expérimenter en dehors des grandes métropoles et qui nous a accompagnés aussi du coup dans la création de ces différentes antennes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on développe nos incubateurs à l'échelle régionale.
Par rapport à la région et puis ce développement dans certains secteurs ruraux, concrètement, est-ce qu'il y a un village qui peut être cité comme exemple sur lequel un développement conséquent a été produit par vous?
Alors nous, on produit pas. C'est les entrepreneurs qu'on accompagne qui produisent principalement. Là, sur la Drôme, par exemple, on a accompagné la Chignole à Cray, qui est une matériothèque bricothèque qui s'est créée à la fois pour valoriser le réemploi et puis pour créer du lien social aussi sur le territoire. On a accompagné aussi Chenille et Papillon, par exemple, qui est une crèche itinérante sur la vallée de la Drôme pour justement pallier au manque de crèches aujourd'hui pour pouvoir libérer du temps, notamment pour les femmes en recherche d'emploi. Donc voilà, c'est deux beaux projets qu'on a pu accompagner sur la Drôme aujourd'hui. Et plein d'autres. Hein.
Ça s'adresse aussi, alors, les entreprises que vous accompagnez, quels sont les critères auxquels vous vous tenez pour les solliciter ou du moins les accompagner?
Et ben aujourd'hui, on est en plein appel à projet, justement, qui s'est lancé le 22 mars dernier jusqu'au 26 avril prochain, pour sélectionner une belle promotion de 10 entrepreneurs en phase de création à l'échelle du département de Romois. Donc nos critères de sélection, dans les grandes lignes, c'est la motivation principale doit être celle de répondre à un besoin social et environnemental du territoire, de vouloir créer son propre emploi aussi à travers la création de cette entreprise et puis a posteriori créer d'autres emplois. Et puis avoir envie, on va dire, de déployer son activité en partenariat avec l'écosystème existant. Et puis, nous, de notre côté, on essaye aussi de vérifier que l'entrepreneur ait du temps pour suivre notre accompagnement et pour créer son activité. Et puis qu'il soit dans une dynamique de communauté, on va dire, parce que je le disais tout à l'heure, on a accompagné 265 entreprises sociales et c'est aussi faire vivre cette communauté et participer à des échanges entre entrepreneurs pour faire grandir aussi les projets des autres.
Alors, ces entreprises sociales et d'accompagnement donc, s'adressent à des personnes fragiles hein, ou oubliées, comme vous le stipulez, des personnes qui sont aussi en situation de handicap ou d'exclusion. On peut définir des personnes en position d'exclusion.
On a accompagné différents projets à l'échelle de la région qui sont par exemple pour des personnes qui sont en grande fragilité ou des personnes réfugiées par exemple. Donc sur comment on recrée du lien social entre les personnes réfugiées et les habitants d'une ville. Comment on accompagne Entourage par exemple dans son implantation sur la région qui crée du lien entre sans-abri et personnes avec maison, si je puis dire comme ça. Donc c'est aussi recréer du lien entre différents mondes et différentes typologies de personnes, on va dire, qui n'ont pas forcément l'habitude de se croiser et qui pourtant vivent sur le même lieu. Donc ça peut être ce type de public aussi qui peuvent être exclus en fait de nos sociétés actuelles.
Cela concerne aussi les personnes âgées ou isolées. Dans les territoires ruraux, il n'est pas rare de retrouver une personne après des semaines au temps de Covid pour savoir si elle allait bien. Ça, j'ai entendu sur le territoire d'Iwa. Et les victimes de discrimination, bon, ça rejoint un petit peu l'exclusion. Concrètement, ça a donné des résultats. Par exemple, dans le domaine des droits des femmes, est-ce qu'il y a un soutien aussi sur cet aspect-là?
On a accompagné un projet dans l'Ouest rhodanien, donc qui est un de nos autres incubateurs dans un territoire rural. C'est Solidarité Femmes Beaujolais, justement, qui voulait pas se résigner au fait qu'une femme sur 10 soit victime de violences conjugales, et d'autant plus dans les territoires ruraux, et qui a créé cette association à la fois pour diffuser l'information, être un lieu de ressources et d'accueil pour ces femmes, et puis que chaque acteur de l'action sociale puisse aussi identifier ces femmes qui sont victimes de violences conjugales aujourd'hui. Donc typiquement, ça peut être une des thématiques abordées par des entrepreneurs qu'on accompagne.
Alors, il y a aussi le soutien à l'environnement. D'ailleurs, vous accompagnez Terre Active, Permalabo et Compost et Territoire également. On peut présenter rapidement ces trois structures. Et puis, quelle est justement l'action que vous opérez auprès de ces associations?
Tout à fait. On a accompagné ces trois structures pendant la première année d'incubation de Rhône-Alpia sur la Drôme. Permalab, qui était une structure qui était déjà créée et qui forme et favorise la permaculture dans les lieux publics, privés, justement qui est pour avoir une action écologique durable. On composte des territoires qui accompagnent à la fois les collectivités et les habitants de villes pour faciliter l'accès au compost et pour amplifier la valorisation des déchets. Donc on a accompagné aussi il y a 2 ans aujourd'hui. Et puis Terre Active, qui a arrêté son projet, mais qui était accompagné pour... C'était une conciergerie locale auprès des entreprises et qui a arrêté son projet il y a un petit peu moins d'un an. Mais c'est le jeu de l'incubateur. Et nous, c'est tout notre rôle aussi de soutenir ceux qui veulent tester leur activité. Parfois, ça ne fonctionne pas. Et c'est tout l'enjeu de l'accompagnement.
Le compost, par exemple, c'est une problématique qui est encore évidente dans les territoires ruraux aussi. Hein. On lance avec parcimonie des dépôts de compost dans certains villages, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. En quoi consiste votre activité auprès d'une entreprise d'Intrépide qui traite de l'environnement, par exemple? Est-ce que vous êtes là aussi pour le conseiller? Et puis, quelles sont les possibilités que vous avez, vous aussi, pour pouvoir véritablement accompagner une entreprise?
Aujourd'hui, on les accompagne de différentes manières. Le premier axe, c'est le suivi de proximité qu'on propose aux entrepreneurs. C'est d'avoir aussi une relation avec quelqu'un qui suivra son projet sur les grandes phases de construction. À travers de l'accompagnement collectif, donc on met en place des formations collectives avec des experts sur les grands sujets de la création d'entreprises sociales qui interviennent auprès des entrepreneurs directement. De l'accompagnement individuel qui est réalisé par des experts de l'accompagnement et qui vont faire le fil rouge du projet, les accompagner dans la prise de décision stratégique. Voilà, et sur des temps de communauté, d'échange entre porteurs de projets. Donc on les accompagne à la fois sur le modèle économique, sur le statut juridique, sur le prévisionnel économique et financier, sur la consolidation de la stratégie et de bien mettre l'impact au cœur du développement du projet. Donc voilà, et ensuite on a un réseau aussi aujourd'hui à l'échelle régionale avec différents acteurs comme là sur la Drôme, et même à l'échelle régionale on travaille avec le GRAP par exemple, avec Village Vivant, avec différents acteurs aussi qui peuvent, en étant accompagnés par Rhône-Alpia, c'est aussi faciliter l'accès à d'autres expertises à l'échelle régionale, expertise et aussi financement, où on essaye de faire le lien aussi avec les acteurs du financement à l'échelle régionale et nationale, avec les entrepreneurs qu'on accompagne pour faciliter aussi leur développement. Donc c'est vraiment sur une diversité d'axes sur lesquels on peut les accompagner aujourd'hui.
Quel est l'investissement dont doit faire l'Intrépide pour être accompagné par vous?
Donc je le disais rapidement tout à l'heure, il leur faut du temps. Aujourd'hui, on dit que pour mener à bien son projet, il faut que le porteur de projet ait au moins 50% disponible sur la création de son activité et aussi pour participer aux différents temps qui sont proposés par Rhône-Alpia aujourd'hui. C'est environ 13 journées de formation collective, 20 heures d'accompagnement individuel, le suivi de proximité, les temps de communauté. Donc c'est un programme qui est assez dense. Voilà, il faut avoir le temps de le suivre. On est vraiment dans une relation de réciprocité entre les entrepreneurs qui sont accompagnés et Rhône-Alpia. Donc souvent, même après leur accompagnement, les entrepreneurs réinterviennent auprès des nouveaux entrepreneurs sélectionnés ou à différents temps de communauté aussi. Donc c'est aussi, on est aussi dans l'attente d'un engagement aussi en termes de temps des entrepreneurs vis-à-vis de Rhône-Alpia et de la communauté qui la compose aujourd'hui.
Les sélections que vous opérez auprès de certains entrepreneurs donc, sont aussi relatifs à la perception qu'ils ont de leur territoire et de manière à mieux articuler les solutions qui seraient proposées pour certains domaines. Ça, vous en tenez compte aussi?
Tout à fait. Et c'est vraiment un des grands enjeux aussi pour Rhône-Alpia dans la phase de sélection. Donc là, on est en appel à projet. Il y aura deux temps de sélection ensuite. Une première lecture des dossiers par l'équipe Rhône-Alpia. Un temps de 2 jours de formation qui est ouvert à tous les entrepreneurs qui auront candidaté. Et ensuite, il y a un comité de sélection qui est composé d'acteurs du territoire et Rhône-Alpia se retire de la sélection à ce moment-là. Il y a les collectivités locales qui sont à l'intérieur. Il y a pas mal d'acteurs du territoire qui sont présents justement pour faire écho à d'autres initiatives qui pourraient être portées aujourd'hui, pour valider le besoin aussi et les actions, on va dire, qui sont portées par le territoire aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire très attention justement aussi pour préserver, on va dire, l'écosystème et les différents partenariats qui peuvent exister déjà sur le territoire. Donc on s'appuie vraiment sur les acteurs locaux pour nous aider aussi à sélectionner cette promotion d'entrepreneurs.
Au niveau régional, l'équipe de Rhône-Alpia consiste en combien de personnes, approximativement?
Alors, l'équipe a bien grandi depuis un an. Aujourd'hui, on est 20. On est 20 dans la structure qui sont donc avec différents métiers, on va dire, de la coordination de programmes d'accompagnement. Donc aujourd'hui, à l'échelle régionale, on porte 8 différents programmes d'accompagnement. Et aujourd'hui, on a plutôt parlé de l'incubateur et du programme d'incubation. Et d'autres personnes ensuite qui sont en charge de la responsabilité d'une antenne, du développement, de la recherche de financement, etc. Donc on est une vingtaine aujourd'hui.
Les collectivités locales, actuellement, vous ont permis aussi de pouvoir vous développer par une mutualisation et une réciprocité. Est-ce qu'il y a encore des difficultés, justement, sur les territoires ruraux de cette progression ?
Oui, enfin, on a été soutenu notamment dans le cadre d'un fonds leader sur le territoire de la Biovallée, où on a été soutenu par les collectivités locales. Aujourd'hui, on compte à l'échelle régionale 12 collectivités partenaires, donc à l'échelle de communautés de communes ou de communautés d'agglomération, uniquement dans les territoires ruraux ou périurbains, enfin en dehors des grandes métropoles. C'est vraiment un travail de partenariat qu'on monte avec eux pour que ça réponde au mieux aux besoins des entrepreneurs et des territoires, et pour que ça s'intègre pleinement dans le pôle entrepreneurial des collectivités de manière générale. C'est pas toujours simple, et c'est souvent du temps long même de créer ces partenariats avec les collectivités. Le temps de faire la preuve, le temps de montrer les impacts que peuvent avoir la présence de Ronalpia aujourd'hui. Donc voilà, et en même temps, une fois qu'on est parti, c'est vraiment des partenariats de long terme. Donc c'est ce qui donne aujourd'hui tout l'ancrage et le poids des incubateurs localement.
Il y a aussi les généreux, ceux qui prennent des risques ou qui innovent. Votre expérience vous permet justement de mieux guider cette démarche un peu audacieuse dans le contexte, en plus encore avec le Covid.
Alors aujourd'hui, oui, ça fait 8 ans qu'on fait le programme incubation à l'échelle régionale et dans les métropoles, pardon, et 3 ans à l'échelle régionale dans les différentes antennes rurales hors des grandes métropoles qu'on a pu ouvrir. Donc on a capitalisé sur 8 ans de métier, on va dire, sur l'incubateur. Mais par contre, on est toujours très à l'écoute des besoins des entrepreneurs pour pouvoir faire une amélioration continue en fait sur les programmes qu'on propose et pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des entrepreneurs, mais on s'appuie quand même sur une expertise développée depuis quelques années.
Justement, à l'étude d'un territoire, vous avez certainement expertisé l'économie locale et de manière à savoir quels sont les manques à combler.
Aujourd'hui, on travaille notamment avec les collectivités locales, cette phase de diagnostic, on va dire, des besoins du territoire. C'est pas Ronalpia qui endosse ce rôle à proprement dit. Par contre, on échange avec les différentes collectivités, les techniciens, parfois les élus aussi, pour essayer de comprendre quelles sont les grandes tendances, entre guillemets, en termes de besoins, pour bien les identifier et potentiellement sélectionner des porteurs de projets qui seraient en lien avec ces thématiques. Donc voilà, c'est notre manière de faire aujourd'hui, et ce diagnostic, il est évidemment abondé avec tous les partenaires locaux qu'on peut avoir aujourd'hui, et puis au fur et à mesure avec les différents entrepreneurs qu'on a accompagnés et qui eux-mêmes défrichent déjà des thématiques et peuvent nous renseigner sur les besoins à couvrir.
Voilà, donc vous avez aussi le soutien de la région, de l'Europe aussi par les fiches leaders. Et puis aussi il y a le mécénat, hein, je crois, tel que l'entreprise Orange, AG2R, Veolia, la Caisse d'épargne et puis une multitude d'autres. Quel est leur rapport effectif au sein de cette association ?
Alors aujourd'hui, ils interviennent à la fois, comme vous l'avez dit, sur un soutien financier directement pour l'association et pour pouvoir créer ces incubateurs aujourd'hui et dispenser un accompagnement gratuit pour les entrepreneurs qu'on accompagne. La gratuité est là grâce au soutien de nos différents financeurs que vous avez pu citer. C'est aussi un relais, on va dire, pour les entrepreneurs qu'on accompagne. On essaye, par exemple, avec AG2R, de créer des ponts entre la structure AG2R et les entrepreneurs qu'on peut accompagner sur tout ce qui est accompagnement au vieillissement de la population, pour que potentiellement les offres que nos entrepreneurs sont en train de déployer intègrent les services d'AG2RIA Mondiale et soient relayés par AG2RIA Mondiale. Donc, au-delà du soutien financier, c'est vraiment des actions de coopération qu'on développe avec eux au service des entrepreneurs. Et aussi où certains collaborateurs peuvent mettre à disposition leurs expertises spécifiques en fonction des thématiques qui sont portées par les entrepreneurs. Par exemple, on a accompagné une ferme aquaponique dans la Drôme, Carpe Capucine, et notre soutien Veolia a pu leur apporter une expertise très spécifique sur un des sujets, par exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres exemples.
Ces entreprises conseillères, hein, en quelque sorte, sont obligatoires, ou alors il y a une certaine liberté pour l'intrépide de se renseigner auprès d'autres organismes ?
En termes d'accompagnement, aujourd'hui, souvent ils sont accompagnés par Ronagpia et ils peuvent être aussi co-accompagnés par d'autres structures. On le voit notamment souvent avec le réseau France Active qui arrive sur l'étape du financement et sur la consolidation du business plan, sur le modèle de financement et le prévisionnel économique et financier. Donc parfois il y a des co-accompagnements qui s'opèrent entre différentes structures aussi localement, et évidemment l'entrepreneur, l'intrépide n'est pas enfermé entre guillemets chez nous, bien au contraire.
Alors actuellement vous avez lancé un appel donc à projet d'entreprise sociale qui se termine le 26 avril, hein, date incluse. Et donc, vous citiez tout à l'heure un panorama des différentes professions qui pourraient être conseillées ou accompagnées. On peut rappeler lesquelles ? Parce que là, je vois aussi, les artistes sont conseillés aussi ou sont accompagnés par vous, c'est ça ?
Tout à fait. Par exemple, on a accompagné Théâtricité, qui est une association et une troupe qui se produit auprès de publics spécifiques et fragiles. Ils travaillent par exemple avec des bailleurs sociaux aussi. Ils utilisent vraiment le théâtre comme moyen de médiation entre différents acteurs, différents publics. Et c'est une structure qu'on a accompagnée il y a 3 ans aujourd'hui. Donc à la fois sur le volet culturel, à la fois sur le volet, comme je le disais tout à l'heure, très social, accompagnement au vieillissement de la population, sur des enjeux de mobilité, de création de services de proximité, sur des enjeux d'éducation. Enfin, les enjeux sociaux et environnementaux sont assez larges aujourd'hui. Tout l'enjeu, c'est de montrer que c'est un enjeu et de voir si la solution est adaptée à l'enjeu qui est exposé. Mais voilà, on a toujours des promos hyper variés. C'est ce qui fait la force aussi aujourd'hui du groupe d'entrepreneurs qu'on va accompagner pendant 9 mois. C'est qu'ils adressent des problématiques diverses. Ils ont aussi souvent des expériences, un bagage assez différent, et ce qui permet de s'enrichir aussi mutuellement.
Le Covid-19, quel impact a-t-il eu sur l'économie régionale ? Est-ce que pour vous cela s'est traduit par une demande accrue, ou alors il y a eu une certaine stagnation depuis un an ?
Aujourd'hui, sur les appels à projets qu'on a pu lancer pendant le confinement et la crise de manière générale, on a eu autant, voire plus, de dossiers déposés. Je pense l'envie individuelle aussi de chacun de s'investir aussi auprès de certains publics fragiles qui ont été renforcés pendant cette période-là. Voilà, ça a plutôt réveillé des envies d'entreprendre au service des fragilités de son territoire. Et de manière générale, par contre, ça a été quand même assez compliqué pour les entreprises sociales qu'on a accompagnées, qui avaient du mal à aller sur le terrain, qui, du coup, pour prototyper, c'était quand même plus compliqué. Donc voilà, c'est aussi ça a pu être un frein pour certains entrepreneurs. Mais de manière générale, ils s'en sont tous très bien sortis et sont plutôt sont sortis de l'incubateur en ayant envie de continuer de développer leur projet.
Une question par rapport justement aux entreprises sociales, celles qui sont déjà implantées depuis quelques années, sont-elles elles-mêmes conseillères des nouveaux venus dans leur domaine, hein, par exemple ?
On peut faire appel à eux, justement, on est en train de mettre en place des cafés de rencontres, même là en virtuel, justement, pour continuer de garder du lien pendant la crise, pour que les anciens entrepreneurs accompagnés, donc comme vous le disiez, ceux qui sont installés depuis quelques années, puissent rencontrer aussi des nouveaux pour continuer de les inspirer, pour leur donner des retours d'expérience et pour voilà, les accompagner aussi personnellement dans le lancement de leur activité et puis sur cette nouvelle casquette de dirigeants souvent qui prennent en main au moment du lancement de leur entreprise sociale. Donc oui, on fait appel à eux et, souvent, enfin, et c'est aussi grâce à eux aujourd'hui que l'accompagnement perdure. Donc,
Amandine, vous êtes donc vous agissez au sein de Rhône-Alpia, nouvellement arrivée. Quelle sera votre activité dans les prochains temps je vous ai déjà posé la question, hein, je crois, mais je vais vous en reposer une autre en fait. Amandine, qu'est-ce qui vous a amené à agir au sein de Rhône-Alpia ?
Alors moi, ça fait longtemps que je voyais Rhône-Alpia dans mon écosystème, autant ESS qu'entrepreneurial. Et j'avais hyper envie de rejoindre cet asso qui me permet de joindre mes deux passions qui sont l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire. Parce que comme beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont envie d'entreprendre ou pas, je pense qu'on ne se voit pas se lever le matin pour faire quelque chose qui n'ait pas un impact positif autour de nous. Vous disiez que là, avec le Covid, il y a eu des réflexions, on a passé tous beaucoup de temps chez nous et on s'est rendu compte que parfois on ne connaissait même pas nos voisins, qu'il y avait des gens qui dormaient dans la rue et qui ne pouvaient pas se confiner chez eux. Donc, j'avais vraiment cette envie d'agir sur l'impact positif de l'ESS. Et puis ensuite, vu que j'ai une formation plus business entrepreneuriat, c'est aussi aider des gens qui, eux, connaissent très bien leur sujet. On parlait du compost tout à l'heure, par exemple. Donc eux vont être experts de leur métier, c'est ce qu'on leur demande quand ils arrivent chez Rhône-Alpia. Et moi, je vais avoir ce rôle de coordonner l'antenne et de les mettre en lien, de leur choisir un accompagnateur, de me dire « Ah, ce serait intéressant de les mettre en lien avec telle collectivité. On connaît tel entrepreneur qui est passé chez Rhône-Alpia, qui peut lui parler de son expérience. » Et d'être un peu, comme disait Josépha, c'est pas nous qui agissons, mais c'est de les aider à maximiser leur impact. On est très porté sur la mesure de l'impact chez Rhône-Alpia. Donc voilà, ça va être mon rôle d'être au centre de tout ça.
Votre formation professionnelle ou étudiante était sur quel domaine ?
Alors j'ai fait ma formation à l'IAE de Lyon, comme Josépha d'ailleurs. J'ai fait une licence en gestion et ensuite j'ai un master en management avec une option d'entrepreneuriat.
Et pareil, hein, je repose la question aussi pour Josépha. Qu'est-ce qui vous a incité à agir au sein de Rhône-Alpia ?
Alors moi j'ai fait mon stage de fin d'études chez Rhône-Alpia. Quand j'arrivais à Lyon et je rentrais d'un voyage aux Philippines que j'avais fait pendant 6 mois au contact de publics assez fragiles et sur une réflexion justement de création d'un incubateur d'entreprise sociale. Donc j'étais dans une ONG pendant 7 mois aux Philippines, dans un territoire rural, très rural d'ailleurs. Et je suis rentrée à Lyon, enfin j'ai continué mes études à Lyon par la suite et j'ai cherché justement un acteur de référence sur Lyon qui adresse ces problématiques de fragilité individuelle et territoriale. Et Rhône-Alpia est apparu assez rapidement comme une évidence et j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe du coup en 2017.
La présence, oui, vous voulez intervenir ?
Non, j'allais dire que je trouve ce qui est important de dire aux porteurs de projets qui pourraient postuler pour être accompagnés par Rhône-Alpia, c'est que nous, notre rôle, c'est vraiment de garder cet ADN ESS, donc économie sociale et solidaire, qui va être dans leur projet, mais aussi de les aider à le structurer et à trouver un modèle économique qui sera viable. Parce que souvent, c'est difficile quand on crée une asso ou une SCOP. Et notre rôle, c'est vraiment ça, parce que même si c'est des projets qui peuvent être subventionnés, qui ne vont peut-être pas faire payer leurs bénéficiaires, on ne parle pas forcément de clients, mais de bénéficiaires, souvent au début, il faut quand même trouver un modèle pour pouvoir vivre de son activité, peut-être comme vous ici à la radio, de faire ses premières expérimentations pour être indépendant financièrement, même si derrière, on va avoir des subventions. Et ça, je trouve que c'est hyper... Enfin, c'est ce qui m'a amené vers Rhône-Alpia et je pense que c'est vraiment ce qu'on peut apporter à des porteurs aujourd'hui.
L'implantation sur la Drôme, je vous avais posé la question, il y en aura diverses sur le duo, sur la Drôme. Par contre, quel est le siège ou la base locale de Rhône-Alpia en Drôme ? Il y a une adresse ?
Alors, il y a une adresse que, très honnêtement, je ne connais pas encore par cœur, mais qui est dans les locaux de la FAPT à Valence. Je ne sais pas si tu connais la rue, mais moi, je ne me souviens plus, mais Google vous aidera. Vous tapez FAPT Valence. Donc, on est vraiment basé à Valence, ce qui est pratique aussi parce qu'on est accessible en train. Et puis, je pense que ça fait un pôle un peu centrale pour les gens qui viennent de la Drôme, mais on va accompagner, je pense, des projets qui viennent un peu partout dans la Drôme.
À l'heure actuelle, donc, il n'y a aucun accompagnement effectif en Drôme.
Il y en a eu pendant 2 ans, 2 années d'expérimentation qu'on a menées avec l'association Biovallée, qui est située à Eure, donc le siège est à Eure, et puis IVDD, donc Initiative Vallée de la Drôme d'Iwa, et une dizaine d'autres acteurs qui nous ont accompagnés sur notre implantation à l'échelle locale, comme le réseau France Active, Let's Go, qui est une entreprise sociale qu'on avait accompagnée il y a quelques années, qui est dans la Drôme aujourd'hui, Solstice, qui est aussi la CAE, une CAE qui est présente sur le territoire de la Biovallée. Donc voilà, différents acteurs qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis d'expérimenter et tester l'accompagnement pendant 2 ans sur la Biovallée, donc le Diwa, Saillant, Cray, etc. Et aujourd'hui, du coup, on voulait donner une dimension plus départementale à notre accompagnement pour pouvoir accompagner plus de porteurs de projets. On était entre 5 et 6 entrepreneurs les 2 années précédentes. Là, on passe à 10 cette année. Donc voilà, l'échelle départementale nous permet aussi d'accompagner plus de porteurs de projets. Et comme le disait Amandine, donc avec un siège à Valence, mais une idée de pas centraliser l'accompagnement sur Valence non plus et de pouvoir faire différents temps de formation, notamment dans le centre Drôme du côté de la Biovallée.
Et puis sur internet, vous avez un site, l'adresse est précisément laquelle ?
C'est www.ronalpia.fr et sur le site vous retrouvez à la fois le programme d'accompagnement, les calendriers et puis surtout le formulaire à remplir pour intégrer l'incubateur, donc le dossier de candidature qui est disponible directement sur notre site internet.
Eh bien, je pense qu'on a tout dit.
Un grand merci.
J'allais dire un rappel des dates.
Comment ?
Si on peut faire un petit rappel des dates avant de
Bien
finir,
sûr.
Allez. Donc l'appel à projet est ouvert jusqu'au 26 avril à minuit. Auditeurs, entrepreneurs, préparez votre dossier. Ensuite, on fera les 2 journées d'immersion, qui sont 2 journées d'accompagnement pour tous les porteurs qui auront postulé, comme le disait Josépha, qui seront le 10 et 11 mai. Le comité de sélection sera le 18 mai, si je ne me trompe pas. Et le début de l'accompagnement commencera début juin.
Amandine Mollard et Josépha Poré, je vous remercie toutes les deux d'être venues de si loin pour nous présenter donc Ronalpia sur RDY et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.
Merci. Merci.